L de géant, L de géant, L de géant, L de géant. Bienvenue sur L de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L de géant reçoit l'écrivain Éric Pessan, qui a signé une trentaine de livres à l'école des loisirs, pour son nouveau et inspirant roman « Le soleil est nouveau chaque jour ». Bonjour Éric Pessan.
Bonjour.
Alors, démolition d'une cité HLM, viol, inceste, abandon d'enfants, déplacement de migrants, vous aimez, Éric Pessan, relier un fait de société et une histoire intime par le bien d'un personnage narrateur qui embarque dans son aventure. Dans Le soleil est nouveau chaque jour, il s'agit de Thomas, un prénom qu'il confie assez tard d'ailleurs. Thomas a la vingtaine, il est étudiant à Nantes, et il décide avec quelques autres jeunes, dont sa petite amie Clara, de s'encabaner dans un bois pour protester contre un grand chantier inutile. Le roman démarre quand ils prennent les arbres, comme d'autres prennent le maquis. Il remonte en arrière, explique le montage du projet, et il suit son déroulement jusqu'à l'arrivée de la police, c'est un petit peu après. Thomas ne construit pas une cabane pour prendre un bain de forêt, pour reprendre l'expression de la québécoise Gabrielle Filtoshiba. Alors quelles sont, Éric Pessan, les motivations de votre personnage ?
Les motivations de Thomas, elles sont certainement multiples. D'abord, et peut-être avant tout, il y a cette volonté de faire quelque chose quand on n'arrête pas de nous répéter que ça ne sert plus à rien. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire pour lutter contre quelque chose que tout le monde nous présente comme inexorable. L'économie a gagné, la pollution a beau, enfin le réchauffement planétaire, le changement du climat, ça a beau être des sujets de préoccupation. On a l'impression, chacun, depuis notre petit bout de l'endroit où on se terre, qu'on n'y peut rien. Je crois que Thomas a besoin d'essayer de faire quelque chose pour rompre la passivité, pour d'une certaine façon pas être complice, pour voir si il est possible de contrecarrer au moins localement à un endroit précis une petite chose, puisqu'il semble que ce n'est pas un parti politique donné ou la mouvance globale de la société qui ira contre l'économie ou qui fera une véritable révolution vis-à-vis de l'écologie.
Et ce grand chantier inutile contre lequel il s'insurge, à quoi ressemble-t-il ?
Une plateforme logistique de 200 000 m² d'une société de vente en ligne. Un endroit où des salariés sont sous-payés, maintenus dans des conditions de travail très précaires. Et un endroit d'immense gaspillage. D'abord, la construction va être terrible. On va raser une forêt, on va assécher un petit étang. Ensuite, ça va créer des déplacements de plusieurs milliers de véhicules par 24 heures pour à la fois les salariés puis les camions qui vont rentrer et sortir de ce lieu. Et puis, on sait très bien comment ces grandes sociétés de vente en ligne, que je ne nomme pas dans le roman, mais comment cette grande société de vente en ligne pousse les producteurs à surproduire pour avoir des stocks partout disponibles pour pouvoir servir au plus vite d'éventuelles commandes et détruit des stocks. Voilà. Et puis en plus, c'est une société qui a une fiscalité assez opaque. Enfin voilà. Donc c'est une société polluante, destructrice pour l'emploi, aliénante. Et elle va s'installer dans un coin de la France. Là. Elle va déployer son entrepôt de 200 000 m². C'est énorme, 200 000 m². C'est absolument gigantesque. Et Thomas et quelques camarades vont décider de l'empêcher.
Elle va détruire une forêt, disiez-vous. C'est plutôt une forêt, plutôt un bois. Et est-ce que c'est un bois qui vous fait penser à un bois que vous connaissez déjà ?
De façon très 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 concrète et très personnelle, j'habite dans le Lignum Nantais, à 7 km à vol d'oiseau de chez moi. Sur la commune de Montbert, Amazon a voulu implanter une entreprise, une plateforme de 200 000 m². Ça s'est passé il y a quelques années. C'était pendant le confinement que ça s'est réglé, pendant la crise sanitaire, où finalement Amazon est reparti en arrière. Et donc l'idée, c'était de sacrifier un bois, c'était d'assécher un étang, c'était de prévenir tous les riverains que le passage de véhicules allait être multiplié par 20 dans les jours qui suivront l'ouverture de la plateforme. J'ai pas été chercher une fiction très très loin. Alors oui, ce petit bois, je le connais bien parce que je m'y suis baladé, j'y ai manifesté, j'ai reçu des gaz lacrymogènes, voilà.
Thomas revient sur ce qu'on pourrait appeler le jour de la rupture, quand, alors qu'il achetait un livre à la FNAC, il a brusquement pris conscience qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus, continuer à vivre de la même façon. Est-ce que c'est votre manière à vous d'aborder cette tendance qui prend aujourd'hui le nom de bifurcation ? Comment s'exprime-t-elle par rapport à la trajectoire militante de son père, donc père de Thomas, et aux intuitions de sa sœur, sa petite sœur d'ailleurs, qui est un de vos personnages récurrents ?
Oui, Julie, la narratrice de La Forêt d'Hokkaido, j'avais dit que je la referais plus revenir et puis j'ai craqué. Je suis très très attaché à Julie. Je pense qu'un jour je vais lui offrir un roman en catégorie adulte. Le père de Thomas est un militant. Il s'est beaucoup battu pour le droit de ce qu'on a appelé les sans-papiers, donc les migrants. Il s'est beaucoup battu pour la dignité des gens qui vivent dans la rue. C'est un vrai militant de gauche, inscrit dans un appareil politique de gauche, puisqu'il a fini par être élu d'opposition, mais il a fini par être élu. Voilà. Donc c'est un militant qui a cru toute sa vie, d'une certaine façon, à la politique traditionnelle. Thomas a grandi dans cet environnement familial qui est un environnement familial de gauche, impliqué, humaniste. Mais là où Thomas suit plus son père, c'est que Thomas ne croit plus en la puissance d'un parti politique qui pourrait contrecarrer des projets comme ça. Et en ça, je pense que Thomas représente énormément de jeunes gens que je croise, que je peux voir. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture en collège, en lycée, parfois à l'université. Je croise des jeunes gens qui ont envie d'agir. Et leur envie d'action, elle va passer soit dans un cadre associatif, soit tout de suite par des actions qui vont monter eux-mêmes, sans se poser la question du fondement de ce cadre-là. Cette envie d'action passe très très rarement par les partis politiques traditionnels. Les jeunes gens maintenant sont complètement dessillés par rapport à la politique, ils n'ont plus d'illusions politiques, et ceux qui ont envie de faire n'iront pas prendre leur carte de membre à un parti.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de rupture ? Est-ce qu'ils ont besoin de rompre, y compris avec donc la façon de militer de leurs parents, mais surtout avec un monde qu'ils réprouvent ?
Oui, bien sûr, je pense qu'on a besoin de rupture. Je vais à nouveau raconter une anecdote très personnelle. Il y a vingtaine d'années de ça, j'avais des amis qui décidaient autour de moi de ne plus aller voter, de cesser de voter. J'ai passé des nuits à m'engueuler avec eux. J'ai vraiment passé des nuits à m'engueuler avec eux. Là, maintenant, je n'aurai aucun argument face à quelqu'un qui me dit « aux prochaines élections présidentielles, je ne vais pas voter ». Je n'aurai absolument aucun argument à lui opposer. On voit bien comment les partis ont trahi ce pourquoi ils sont là. Dans le cadre de partis de gauche, ils ont plus ou moins trahi ce pourquoi ils sont là. Je ne pense pas que le gouvernement actuel trahisse quoi que ce soit, puisqu'ils ont mis carte sur table dès le début. Et par contre, ils bénéficient d'une absence complète de cohésion et de recentrement à gauche. Tant que les partis de gauche resteront des forces éparpillées et qu'ils ne vont pas s'agglomérer ensemble pour créer une force forte, on finira immanquablement par un parti capitalistico-libéral face à un parti d'extrême droite à tous les scrutins nationaux au deuxième tour. Oui, je crois qu'il y a un besoin de rupture. On a besoin et nécessité de ne pas accepter le monde tel qu'on nous le présente. C'est-à-dire, le monde est une ressource, on consomme la ressource, l'humain est une ressource supplémentaire, on va le faire travailler plus, on sait très bien qu'à travailler 2 ans de plus, le but c'est pas de remplir la caisse des retraites, ça aura des répercussions terribles vis-à-vis du chômage, tout ça, mais l'humain est considéré comme une ressource, le monde comme une ressource, et on va descendre au fond de la mine jusqu'au moment où il n'y aura plus rien, plus une goutte de quoi que ce soit dans le sillon. Ça, c'est l'ultralibéralisme tel qu'il est maintenant, et je pense que oui, faut rompre avec ça.
C'est Thomas qui raconte, il rapporte les positions de ses camarades de lutte, notamment celles qu'il lit sur son téléphone une fois qu'il est perché dans son arbre. Vous intégrez d'ailleurs les textes d'autres membres du groupe, jusqu'à afficher leurs désaccords, mais aussi présenter les parcours de chacun. Est-ce qu'on pourrait lire Le Soleil Nouveau chaque jour comme un roman de formation, et quel type de formation ?
C'est un roman de formation à la vie politique d'un groupe de jeunes gens, et ils sont tous venus par des histoires intimes. Ça, pour moi, c'était important de l'écrire. Pas sûr qu'on s'engage en politique porté par des convictions philosophiques. On s'y engage parce que, brusquement, on se préoccupe du sort des migrants, parce qu'on tombe amoureux d'un migrant et on se rend compte qu'il va être expulsé et qu'on ne sait pas comment faire avec tout l'amour qu'on peut lui porter. On ne sait pas comment faire pour le faire rester en France. Et donc là, on peut devenir un militant et puis on peut commencer à développer des choses. Alors, on peut aussi devenir militant, évidemment, hein, par des convictions philosophiques. Mais ces jeunes gens, une grande partie d'entre eux, en tout cas, vont venir à l'action militante parce que à un moment il y a eu une violence de trop, parce qu'à un moment il y a eu un refus de trop, parce qu'à un moment il y a un scandale de trop. Un nouvel état dans la même semaine de l'accroissement des fortunes des multimilliardaires et de l'appauvrissement généralisé. Ils ont tous d'une certaine façon leur propre épiphanie, ce petit moment-là qui va les faire basculer et qui va leur dire « j'en ai marre, ça y est, là j'y vais ».
Et ce qui forme un groupe, ça va être le projet commun. C'est ça qui va les souder, les fédérer.
Oui, oui, l'opération Philoscopus. Ils vont décider, donc, puisque ces arbres doivent être rasés, ils vont décider de s'installer au sommet des arbres, d'installer des cabanes et de se mettre à vivre. Là, ils ont pris du ravitaillement, ils ont d'abord monté des espèces de planchers. Alors, c'est des cabanes toutes relatives, hein. C'est vraiment... on est plus près de... un peu de la cabane de gosse avec 2-3 planches. C'est pas des cabanes de luxe, hein, mais ils vont s'installer à 10 mètres, à 15 mètres, là où on va pas oser les bousculer, parce que à cette hauteur-là, tout incident peut se transformer en accident mortel.
Ce qu'ils apprennent, parce qu'ils ont quand même un petit entraînement, d'abord parce qu'il faut monter les planches, puis aussi parce qu'il faut s'arnacher pour grimper dans les arbres.
Oui, oui, ils se préparent. Ces jeunes gens qui sont montés, on les a tous croisés dans mes précédents romans, même si, encore une fois, tous mes livres sont complètement indépendants. Je m'amuse à les faire vieillir d'un livre à un autre, etc. Et voilà, j'aime bien reprendre des personnages. Ces jeunes gens vont partir vers l'Est, dans une région qui a été meurtrice, qui était la région de la sidérurgie et des hauts fourneaux, où, malgré des promesses répétées, les usines ont fermé les unes après les autres. Et dans cette région meurtrie, donc il y a un projet de méga plateforme. Ils vont aller là-bas et puis ils vont se préparer. Ils n'y vont pas en amateur, ils ont vraiment décidé. Donc sur place, il y a un comité de lutte contre la plateforme logistique qui s'est créé. Et l'un des membres de ce comité, Fabio, est un garçon qui gagne sa vie en étant acrobate dans le bâtiment. Donc voilà, il sait s'arnacher, se monter en rappel, redescendre, etc. Et donc il va les former. Ils ont conscience de deux choses pour que leur opération réussisse. C'est qu'il ne faut absolument pas qu'ils soient amateurs et qu'ils se blessent eux-mêmes. Ils seraient totalement décrédibilisés. Ensuite, ils ont conscience qu'il faut prendre appui sur les médias et donc ils vont faire une vraie campagne de com' autour de leur installation dans les arbres.
Et chacun choisit son arbre, sauf certains qui s'installent à deux.
Oui, chacun choisit son arbre, chacun choisit aussi son type de cabane. Certains sont plus besogneux que d'autres, ils font des vraies cabanes. D'autres se contentent de clouer de planches parce qu'ils sont un petit peu plus feignants. Et puis au milieu de tout ça, des couples se forment. Enfin, des couples étaient déjà formés avant. Et puis certains décident de passer cette occupation de l'arbre, de la passer à deux. De s'aimer ou au sommet de l'arbre. Et puis quand on vit à deux dans 2 mètres carrés, il peut y avoir aussi des tensions qui naissent.
L'engagement de ces jeunes, leur politisation, rentre singulièrement en écho avec de récents événements qui ont eu lieu dans l'actualité, ceux qui se sont déroulés à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, dans le cadre de la protestation contre le montage de méga-bassines. Vous êtes nantais. C'est difficile de ne pas penser à Notre-Dame-des-Landes, à cette lutte emblématique, à ce laboratoire de nouveaux modes de vie. On peut aussi penser à la lutte qui a cours à Bure, pour ne citer que les plus emblématiques. Comment ces luttes vous ont-elles inspiré et pourquoi vouloir situer un roman dans une ZAD ?
C'est rigolo parce que la ZAD, j'y ai pas pensé du tout pendant l'écriture. C'est jamais dit d'ailleurs dans l'ensemble du texte. Et c'est après coup, en le faisant lire autour de moi, quand j'ai fini d'écrire ce roman, on m'a dit « Ah oui, tu racontes l'histoire d'une ZAD ». Je crois que le sujet était là tellement énorme que je ne le voyais plus. Oui. Donc c'est une zone à défendre, donc c'est une ZAD en effet. Oui. La ZAD a pris la forme de cette rupture dont on parlait tout à l'heure. Enfin, il y a rupture et donc on essaye d'inventer d'autres façons de vivre. La différence entre entre une ZAD comme celle qui s'est mise en place à Notre-Dame-des-Landes, c'est que Notre-Dame-des-Landes, les habitats étaient durables. Là, ils savent très bien qu'ils vont pas passer, ils vont pas passer leur vie au sommet des arbres. C'est beaucoup trop léger. Ils espèrent juste tenir suffisamment quelques jours, voire quelques semaines, pour que les actionnaires de la méga plateforme, effrayés par de la publicité négative, fassent marche arrière. C'est ça leur stratégie. Ce qui n'était pas du tout le cas de la ZAD, où on a eu la mise en place d'habitats collectifs, d'habitats partagés, et aussi des terres ont été cultivées. Il y a eu des expériences agricoles assez passionnantes qui ont eu lieu sur la ZAD. C'est pas exactement la même chose, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pensé à ZAD, parce que c'est beaucoup plus léger ce qui se passe dans mon roman. Mais oui, c'est une forme d'action. C'est aussi une très belle forme d'action collective.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de camp de guerre ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui réunit des jeunes gens qui sont tous très différents ? Ils ont en tout cas au moins un ennemi à combattre, tous.
Alors vous parliez des couples tout à l'heure, il y en a un qui est central puisque c'est Thomas qui raconte l'histoire, c'est le couple qu'il forme avec Clara, donc sa petite amie. Ils étaient ensemble avant de s'installer dans la ZAD, depuis 6 mois, ils vivaient ensemble et ils font ce projet ensemble, enfin ça fait partie de leur projet de couple. Et autant la lutte se construit, et à mesure que la lutte se construit, leur amour se défait. En tout cas quand ils sont dans cette cabane serrés l'un contre l'autre et pendus à leur téléphone. Et à un moment, Clara finit par dire à Thomas qu'il est trop gentil. Cette phrase « tu es trop gentil » dans un monde post-MeToo, l'actualité est encore marquée par des meurtres de femmes qui tombent sous les coups de leurs conjoints, elle sonne étrangement. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette attitude de Thomas dans le couple ?
J'ai déjà écrit plusieurs romans dans lesquels les hommes ne sont pas forcément très gentils. Après avoir écrit un roman sur une agression sexuelle et un roman sur un inceste, j'avais envie d'explorer d'autres choses. Et puis là, on est dans un couple. Et Thomas, et ça ne rend pas compte, il est étouffant dans son amour. Il veut tellement que Clara aille bien, que tout se passe bien pour elle. Il la porte en permanence, il précède son désir et au final, il ne se rend pas compte, il l'étouffe complètement. Contrairement à tout ce qu'on vient de dire, mon roman n'est pas qu'une sorte de pamphlet politique. C'est des jeunes gens qui ont des histoires, qui ont des désirs, qui ont des zones d'ombre, des points de rupture. Certains sont là, ils savent très bien pourquoi, d'autres sont plus en touriste, d'autres sont là aussi pour s'amuser, parce qu'une ZAD, c'est aussi une possibilité de foutre le bordel, et ils vont en profiter pour. Ils sont tous très différents, j'avais envie d'avoir comme ça... C'est pas si souvent que ça que je me permets aussi dans une fiction d'avoir autant de personnages. Donc j'avais envie d'avoir toute une galerie de personnages. Et puis j'ai eu envie de faire vivre d'une certaine façon cet amour Thomas et Clara. Je les ai retrouvés de roman en roman. Voilà, au début Thomas était très impressionné par Clara. À un moment dans un autre roman ils sont en couple. Ils ont toujours été des personnages secondaires, on n'a jamais vu, à part dans Plus haut que les oiseaux où Thomas était le personnage principal, on n'a jamais vu leur couple se faire d'une certaine façon, donc j'avais envie de travailler aussi ce couple-là, et de travailler cette limite-là où Thomas il a presque tellement incorporé le MeToo qu'il finit par ne plus être qu'une prévention vers autrui, quoi. Lui se perd complètement en tout cas là-dedans. Et je crois que Clara, en lui disant « t'es trop gentil », d'une certaine façon, elle essaye de l'aider. Elle essaye de lui dire « ne t'oublie pas ».
On peut se demander aussi si ça dresse un personnage de militante un peu guerrière et qui aurait besoin en fait, d'un autre comportement de la part de son compagnon.
J'avais plutôt envie de mettre en place ça. Après, c'est des observations. J'ai vu autour de moi des couples de jeunes gens. Enfin voilà, c'est tout ça. En fait, j'invente jamais rien. En fait, je passe mon temps à rencontrer des élèves qui me disent « Ah, pour être écrivain, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'imagination ?» Enfin, moi, j'ai aucune imagination. Je passe mon temps à prendre des choses autour de moi et les recombiner différemment, les assembler, à les modeler. Enfin, voilà. Je fais des nouveaux jouets en Lego et par contre, les briques, je ne les invente pas. Je les pique. Thomas, il me touche beaucoup, il me ressemble beaucoup, je pense. Prévenant au point de s'oublier vis-à-vis de l'autre. Évidemment, la violence est inexcusable, mais pour qu'un couple se construise et pour qu'un couple dure, il ne suffit pas de ne pas être violent. Il faut aussi, je pense, savoir Je ne crois pas beaucoup à la fusion, ou le couple fusionnel, ça me fait même un petit peu peur, ceux qui savent rien faire l'un sans l'autre. Et là, cette vie commune, 24 heures sur 24 ensemble, va peut-être montrer à Clara que Thomas est peut-être consciemment ou inconsciemment dans un désir de fusion avec elle, et elle va prendre peur de ça.
Et donc lui, il en prend conscience lors d'une nuit où il s'approche d'elle et elle le repousse. Et là, vous écrivez en fait ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, quand un garçon est repoussé.
Oui, j'ai envie de ça, parce que justement, comment dire, j'avais vraiment envie d'un pendant à un roman qui s'appelle « Tenir debout dans la nuit », que j'ai écrit, qui raconte une agression sexuelle où un garçon n'entend pas le refus d'une fille, et qui est d'ailleurs incapable de verbaliser son refus, mais qui, dans son corps, l'exprime complètement. Thomas, il est très très attentif, il ne veut absolument pas forcer Clara à quoi que ce soit. Mais il n'empêche que non, j'ai pas envie, parfois c'est pas super facile à entendre, quoi. Voilà. Et donc, il y a tout le cinéma mental de Thomas qui se met en place en disant, bah oui, tout va bien, je suis un garçon moderne, je la respecte, je sais écouter. Mais ça fait quand même longtemps, et puis elle a un peu regardé cet autre garçon, et puis tiens, c'est rigolo, elle envoie des messages à un autre, et puis tout son cinéma se met en route, et il peut pas s'en empêcher, mais c'est terrible l'amour, enfin c'est génial, ça permet de faire des choses absolument géniales, et puis c'est aussi une espèce d'acide consommé dans la tête, et donc là, il y a des gouttes d'amour qui le rongent, Thomas.
Et il se retrouve tout seul avec son désir, et il sait pas trop comment faire.
Voilà. Et il se retrouve tout seul avec son désir et il ne sait pas trop comment faire du tout. Et puis ils sont à 15 mètres en haut dans une cabane, donc il n'a pas beaucoup d'intimité, il ne peut pas beaucoup s'isoler ce garçon.
Alors donc la particularité de votre Z, c'est de se retrouver dans les arbres. Et vous citez plusieurs auteurs qui vous ont inspiré, comme Thoreau bien sûr, mais aussi Marielle Massé. Baptiste Morisot, et même le Comité Invisible. J'ai également pensé aux jeunes de l'Arbre Monde de Richard Powers, qui sont partis s'installer dans les cimes de séquoias géants aux États-Unis pour les protéger, ou à ceux de Nous sommes l'étincelle, la dystopie de Vincent Villemino, qui pour le coup, ces jeunes ont quitté les villes pour vivre en forêt. Est-ce que c'est une tentation, une expérience, ou un horizon, la vie en forêt ?
Je crois que c'est quelque chose sur lequel actuellement il y a beaucoup de fantasmes. On voit bien, après, en particulier les confinements, quand on vivait en ville, on s'est vraiment retrouvé enfermé dans un appartement avec un extérieur quasiment inaccessible. Je crois que c'est quelque chose qui génère beaucoup de fantasmes, beaucoup de l'idée de la cabane à la Thoreau, où on irait comme ça, on regarderait, on se mettrait un peu en dehors du monde pour laisser le monde glisser un peu en dehors de nous, en tout cas sans être complice de cette course effrénée, parce que nous on serait en train de décroître un peu de notre côté. C'est un grand fantasme, je ne sais pas si beaucoup de gens le tiendraient en définitive. Encore une fois, c'est moins le propos du roman, parce que vraiment ils sont dans des habitats très provisoires et ils ne pourront pas rester longtemps dans la forêt. C'est quelque chose que j'entends, que je vois partout là, et qui est aussi, écrivant ce roman, j'ai conscience de m'inscrire dans une certaine tradition littéraire aussi, de quitter même là très provisoirement la ville pour aller soit s'installer en forêt pour y rechercher quelque chose qui serait de l'ordre d'une intériorité, d'un contact avec la nature, ou là s'installer en forêt pour juste défendre la forêt. Donc oui, plutôt que j'ai cité quelques auteurs qui ont déjà parlé de ça, parce que je les ai lus, parce qu'ils m'ont nourri, parce que le bouquin de Marielle Massé, Nos cabanes par exemple, est un superbe livre qui fait de la cabane un objet politique, que ce soit une cabane physique ou une cabane fantasmée, une cabane de mots. La cabane devient un objet, une chambre pour soi, mais une chambre pour soi qui est un endroit où on peut être soi en se défendant un peu des impératifs du monde. Donc j'ai cité des lectures qui m'ont accompagné et que je n'ai pas forcément lues pour préparer ce livre-là. C'est des lectures que je lis parce que ce sont des lectures qui me sont essentielles. C'est très différent. Des fois, je suis obligé de lire des choses très précises pour écrire un livre. Là, j'ai inclus des lectures qui étaient des lectures importantes, tout simplement pour moi. Oui.
Qui vous accompagnent.
Qui m'accompagnent, oui.
Vous fantasmez, vous, la vie en forêt ? Ça vous fait rêver ?
Bien, je suis en train de déménager pour m'installer dans une forêt.
Donc, dans une cabane ?
Non, dans une maison. Voilà, je m'embourgeoise. Mais oui, je suis en train de quitter la proximité de la ville pour repartir vraiment en pleine campagne, là, en ce moment même. Donc là, je vais faire des cartons, je vais mettre... J'ai réalisé que j'avais à peu près autant de livres chez moi qu'une librairie de quartier. Donc il va falloir que je fasse beaucoup de cartons. Mais oui, j'ai envie de... C'est une expérience que j'ai envie de vivre. Voilà. J'ai envie de me lever le matin et d'entendre la nature et pas forcément les bruits de la production humaine. Pas de circulation, pas de... Enfin, il y aura des voitures, hein, il y a une route. Mais oui, je suis en train de m'installer dans une forêt, là, en ce moment, oui.
Alors, ce qui est particulier dans votre roman, c'est que ce sont des jeunes qui s'installent dans les arbres. Moi aussi, parce que c'est l'âge de cette lutte. Ils ont entre 17 et la trentaine, on va dire. Est-ce que dans votre imaginaire, ce type de lutte, ou peut-être la vie en forêt par extension, ça peut être un projet collectif au-delà du groupe de jeunes? Est-ce que ça peut être un projet de famille, par exemple?
Ça peut être un projet individuel, ça peut être un projet d'un collectif, ça peut être un projet de famille, bien sûr. Oui. Ce qui est compliqué en cas d'un projet de famille, c'est qu'il faut quand même penser à l'éducation, etc. Voilà, donc moi je suis admiratif des gens qui sont partis un an faire le tour du monde dans un bateau et ont fait la classe à leurs enfants. Et à la fois, je suis totalement incapable de... J'aurais été incapable de faire ça. Mais justement, je trouvais ça intéressant qu'ils rencontrent d'autres personnes, qu'ils voient d'autres gens, et que je leur apprenne des choses que l'école ne leur apprend pas forcément. Donc, qu'il y ait une partie du socle, lire, écrire, compter, pour aller vite, histoire, géographie, les sciences, etc., qui soient les langues étrangères. Certains de mes enfants ont appris des langues étrangères que je ne parle absolument pas, donc c'était super. Voilà, l'école peut apporter plein de choses. Et ensuite, en tant que père, en tant que parent, on peut leur apporter des choses un peu différentes.
Eric Pessan, si vous aviez déjà, vous, fait l'expérience de la construction d'une cabane de vos mains, soit enfant, soit adulte.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, enfant, je vivais à Bordeaux. Et puis, mes grands-parents étaient dans la forêt des Landes, en lisière de la Gironde, et dans un petit village qui s'appelle Uzeste, à côté d'Uzeste, même dans un lieu-dit qui s'appelle Labardin. Et donc, je m'étais fabriqué, évidemment, mais tout seul. Enfin, voilà, j'avais récupéré 2-3 planches. J'essayais de les coincer. Je mettais pas de clous avec de la corde, tout ça. Je m'étais fabriqué des cabanes. Mes premières cabanes datent de là. Donc, c'était en haut, dans les arbres. Après, un petit peu plus tard, avec un ami au collège, quand je suis revenu sur Bordeaux, parce qu'entre-temps, j'étais parti à Nîmes, quand je suis revenu sur Bordeaux, on était dans une grande cité HLM avec ce copain, et on s'est fabriqué une cabane dans un arbre. Il y avait un parc derrière, et on s'est vraiment fabriqué une cabane très très haut dans un arbre, qui était invisible du sol, et qui a été notre lieu pendant une petite année, et puis elle a été saccagée plusieurs fois, évidemment, parce qu'on était près d'une cité, donc je pense que des gens nous avaient vus, ou d'autres gamins étaient montés là-haut et étaient tombés sur notre petit confort bourgeois qu'on s'était installé tout là-haut et avait tout pété, mais bon, voilà. Et après, oui, là, j'habite à côté de Nantes, en périphérie, dans un village, mais qui est vraiment très proche de Nantes. J'avais fait une cabane dans le jardin pour mes enfants, ouais. Ouais, j'aime bien faire des cabanes.
Et dans votre prochaine forêt, vous avez déjà élu un arbre qui pourrait accueillir une nouvelle cabane?
Là, le problème des vraies forêts, c'est que elles sont extrêmement surveillées par l'ONF et on fait pas n'importe quoi, mais peut-être que ma maison sera plus comme une île au milieu de la forêt. Voilà. Je vais peut-être essayer de voir ce que ça donne de vivre dans une île, non pas déserte, puisque je vivrai pas seul, mais cette vie dans une île plus que dans une cabane.
Merci beaucoup, Eric Pessan.
Merci beaucoup.
À très bientôt sur Aile de Géant, peut-être.
Quand vous voulez.
Aile de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur Ailes de Géant.